Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde, il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi de commentaires, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. Vous pouvez également écouter notre programme culturel dans la rubrique « Le magazine culturel ». Et après, vous pouvez également écouter le programme de l'apprendre l'indonésien. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec les titres. Des centaines de journalistes étrangers sont prêts à assister à ASPN à Nusa Tenggara West. 12 États exposent la technologie maritime au bureau de la ministre Suci. Le potentiel marin indonésien doit être géré de façon optimale. Le consulat général de l'Indonésie à New York, en collaboration avec le ministère du Tourisme, pour attirer les touristes américains. Les produits des jouets de l'Indonésie vont en international. Le lancement du festival de Merveille Tambora 2016 à Jakarta. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Des centaines de journalistes venus de 20 pays participeront à la Journée nationale de la presse ou ASPN 2016 à Lombok, Nusa Tenggara West. Le responsable du bien-être social de Nusa Tenggara West, comme président de cet événement, Lalu Safi, a déclaré lundi à Mataram, de 20 pays qui assisteraient, la Malaisie enverra le plus grand nombre de délégations d'environ 50 personnes. Cependant, 19 autres pays, y compris certains pays européens, enverront des représentants de 5 personnes pour chaque pays. Cependant, on a prévu que les participants dans le pays qui viendraient à Nusa Tenggara West attendraient 1500 personnes provenant de 34 provinces d'Indonésie. Le gouverneur de Nusa Tenggara West, Zainul Mazdi, a déclaré que la mise en œuvre de cet événement qui aura lieu en février pourrait être utilisée comme la promotion du tourisme de la région. Le gouvernement accélérera la croissance économique nationale, entre autres via le secteur de la marine et de la pêche. Par conséquent, on a besoin de coopérer avec d'autres pays pour tirer des investissements dans le secteur de la marine et de la pêche, a déclaré la ministre de la Marine et des Pêches, Mme Susi Pujiastuti. À l'ouverture du forum et l'exposition de la Marine et des Pêcheries 2016, elle a expliqué lundi à Jakarta que pour réaliser la vision et la mission, le ministre des Affaires maritimes et de la Pêche nécessite l'harmonie et la coopération avec d'autres pays. Dans cet événement, 12 pays ont partagé des informations sur les dernières technologies dans le domaine de la marine et des pêcheries. En outre, il y a eu l'évaluation de la coopération d'investissement entre l'Indonésie et les pays participants. L'événement a été suivi par l'ambassadeur et les représentants de l'industrie du Danemark, de la Norvège, l'Angleterre, de la Russie, l'Australie, la République tchèque, la France, l'Allemagne, le Japon, la Suisse, la Suède et les États-Unis. L'Indonésie, comme un pays qui a une superficie de la mer de 5,8 millions de kilomètres carrés et comme le plus grand producteur de thon, doit être géré de façon optimale pour augmenter les recettes de l'État, a déclaré le commissaire de PT Dua Putra Utama Makmur, M. Wicaksono. Par conséquent, le gouvernement, à travers le ministère des Affaires maritimes et de la pêche, a l'intention d'augmenter la production de poissons jusqu'à la fin de 2019 pour atteindre 24,11 millions de tonnes, avec la croissance estimée de 14,96%. L'existence de réglementations sur la cessation du transbordement il y a quelque temps est souhaitable, puisse augmenter les activités sur des terres telles que le stockage de poissons et puisse répondre à l'approvisionnement de matières premières dans les unités de la gestion des poissons, a déclaré le directeur général de la pêche et du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, M. Gilwin Youssouf. L'objectif fixé par le ministère maritime, selon Wichak, devait être exploité sérieusement par les hommes d'affaires de l'industrie maritime, surtout dans le domaine de la pêche. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Le consulat général de l'Indonésie à New York, en collaboration avec le ministère du Tourisme, soulève le thème « Le merveille de l'Indonésie » dans l'événement de New York Times Travel Show pour attirer les touristes américains. Cet événement a eu lieu récemment au centre de Jacob Javits à New York. Le ministre conseiller entend également le consul du consulat général de l'Indonésie à New York, M. Benny Yepe Siahaan, cité par Antara, a déclaré mardi que New York Times Travel Show était une exposition annuelle du tourisme tenue par New York Times et cette exposition touristique est l'une des plus grandes expositions touristiques dans le monde. Participée par environ 100 pays, chaque pays avec plus de 120 participants. À la fois DP et l'opérateur de voyage. Cette exposition a été visitée par environ 25 milliers de visiteurs. La conception du pavillon de merveille de l'Indonésie est inspirée par l'élégance du navire Pinisi et affiche la beauté naturelle, la diversité des destinations touristiques, culturelles, culinaires et les gens de l'Indonésie qui ont réussi à attirer les milliers de touristes pendant 3 jours d'exposition. Le directeur général du développement de l'exportation nationale du ministère du développement du commerce, Nuzulia Ishak, a déclaré que les jouets de l'Indonésie seront assimilés aux produits de jouets des États-Unis, du Japon, de la France, l'Italie, la Corée du Sud, la Grande-Bretagne et l'Espagne. Les produits des jouets de l'Indonésie seront exposés à l'exposition des jouets de Hong Kong du 11 au 14 janvier 2016 au Centre de l'exposition et de la Convention de Hong Kong. Nuzulia Ishak a expliqué lundi que c'était une occasion pour montrer la qualité des produits des jouets aux acheteurs du monde entier. Selon lui, l'événement organisé chaque année est devenu une place de la réunion des acheteurs du monde avec les fournisseurs. Nuzulia a ajouté que Hong Kong était l'un des centres logistiques plus importants en Asie. Le Festival de Merveille Tambora 2016 aura lieu du 11 au 16 avril 2016 à Nusa Tenggara Ouest. Il a été lancé par le ministère du Tourisme, Arif Yahya et le gouverneur de Nusa Tenggara Ouest, Zainal Majdi Langdi à Jakarta. Cet événement est destiné à accroître le potentiel de charme naturel et culturel, y compris le moment pour commémorer l'éruption du mont Tambora qui a éclaté il y a 200 ans. Le ministre souhaite que le festival puisse augmenter les arrivées des touristes étrangers à l'Indonésie et encourager les voyages des touristes domestique et l'objectif cette année, 12 millions de personnes et 260 millions de voyages touristiques antérieurs. À cette occasion, le ministre Aril a déclaré qu'il était prêt à intensifier la promotion de Lombok, la province de Nusa Tenggara Ouest, notamment pour la destination touristique halal. Il souhaite la croissance du nombre de touristes à Lombok augmente jusqu'à 50% cette année. C'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers auditeurs, nous vous présentons maintenant le commentaire intitulé « La peine de mort en Indonésie en 2016 est encore pertinente ?» La peine de mort est une décision imposée par le tribunal ou sans procès comme forme de punition maximale à une personne en raison de ses actions. Mais selon certaines études scientifiques, il n'y a pas de preuve valide que la peine de mort a l'effet dissuasif ainsi que plus efficace que autre peine. En Indonésie, la peine de mort est réalisée en suivant le système de code criminel de l'héritage colonial néerlandais. Même pendant l'ère de nouveau ordre, les victimes qui ont été exécutées sont principalement des prisonniers politiques. Le deuxième amendement de la Constitution 45, l'article 281, paragraphe 1, mentionne des droits des citoyens indonésiens. Entre autres, le droit à la vie, le droit de ne pas être torturé, la liberté de religion et autres droits liés aux droits humains. Mais les lois en dessous restent des listes de la peine de mort. En 2006, on a enregistré 11 règlements qui ont encore de menaces de la peine de mort, à savoir la loi sur les stupéfiants, la lutte contre la corruption, la loi antiterroriste et la loi sur la Cour des droits humains. Cette liste pourrait être plus longue avec le projet de la loi intelligente et le projet de loi de secret d'État, qui est encore en cours de discussion au Parlement. La peine de mort a reçu le soutien du gouvernement et certaines communautés en Indonésie. Les recherches menées par les médias indonésiens en général ont montré que 75% de la population ont exprimé son soutien à la peine de mort. Actuellement, le projet de code criminel dont le concept est préparé par le gouvernement est en attente de discussion au Parlement. Le contenu est que l'exécution des condamnés à mort doit considérer de la période d'attente pour montrer une bonne attitude et les bonnes actions des prisonniers à la mort. Beaucoup de gens souhaitent que le gouvernement se concentre à mettre en œuvre les obligations constitutionnelles et des engagements internationaux, à respecter le droit à la vie garanti par la Constitution 1945 et le pacte international relatif aux droits civils et politiques. On a su que le gouvernement indonésien a exécuté 14 condamnés à mort en 2015. Cette année, le procureur général fera à nouveau l'exécution et a présenté le projet et la préparation du budget au Parlement. Mais jusqu'à aujourd'hui, la date et les noms des personnes à exécuter n'ont pas encore été déterminés. La question est de savoir, est-ce que la mise en œuvre de la peine de mort en Indonésie est toujours pertinente pour cette année? Y a-t-il déjà l'effet dissuasif de celle-ci? Ou même soulève les avantages et les inconvénients? La mise en œuvre de la peine de mort en Indonésie en 2015 a dérangé les bonnes relations entre l'Indonésie et les pays dont les citoyens sont également frappés par la peine de mort et exécutés. Mais cela dépend au gouvernement et au peuple de l'Indonésie elle-même. En tant que nation souveraine, l'Indonésie possède le système juridique qui ne peut pas être mélangé avec d'autres pays. Cependant, comme fait partie de la communauté internationale, l'Indonésie a également besoin de considérer les opinions des autres. Cher Jamie de l'antenne, c'était le commentaire.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Vous écoutez toujours La Voix d'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Et chers amis, écoutons maintenant l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point.
Bonsoir à tous, voici maintenant l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons avec les événements de 12 janvier 1966, la manifestation de Tritura. L'enlèvement et l'assassinat des généraux de l'armée nationale le 30 septembre 1965 a provoqué à la situation politique tendue dans le pays. La manifestation qui a demandé la dissolution du Parti communiste de l'Indonésie était plus grande et le gouvernement ne prend pas de mesures immédiates. Du coup, la situation politique est incertaine. Cela a conduit à la mauvaise situation économique qui était marquée par le prix élevé des besoins fondamentaux. Enfin, le 12 janvier 1966, le Front Pancasila a demandé trois demandes du peuple ou tricora. Les trois sont la dissolution du Parti communiste indonésien, le remaniement du cabinet Dwikora et abaisser le prix de la nourriture et des vêtements. Tournons aux événements de 12 janvier 1964. Le sultan à Zanzibar a été renversé. En 1964, une révolution sanglante s'est éclatée à Zanzibar, dans laquelle il y a eu la crise politique. Les troubles politiques ont déclenché certaines populations noires de renverser le sultan de Zanzibar le 12 janvier 1964. Le 26 avril 1964, le Zanzibar rejoint à Tanganyika en Afrique pour former la Tanzanie. Chers auditeurs, nous terminons avec les événements du 12 janvier 2010. Haïti est frappé par un grand séisme. Un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter a frappé Haïti, un pays d'Amérique centrale près de Caraïbes, le 12 janvier 2010. En raison de tremblements de terre, environ 300 000 personnes ont été tuées. United States Geological Survey a déclaré que le séisme était le plus grand tremblement de terre en Haïti pendant 200 ans. La destruction en Haïti était plus grave que la tragédie des tsunamis qui a frappé la province d'Aceh et les pays asiatiques à la fin de 2004. On estime que les pertes de catastrophes en Haïti ont atteint 14 milliards de dollars américains. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Cinquième antenne, pour la rubrique suivante, voici donc la mise au point ayant pour le titre « L'Indonésie et la Corée du Sud produisent immédiatement les avions de combat sophistiqués ». Le système principal d'armement défensif de l'Indonésie a entré dans une nouvelle phase. L'Indonésie collabore avec la Corée du Sud à construire bientôt l'avion de combat sophistiqué nommé Indonesia Fighter Experimental ou Korea Fighter Experimental, abrégé IFX ou KFX. L'avion est prétendu d'avoir la capacité sur F-16 équivalent à F-18 Super Hornet et Aerofighter Typhoon. Le ministre indonésien de la Défense, Riamizat Riyakudu, avec le ministre de l'Administration du Programme d'Acquisition de Défense, DAPA, de la République de Corée, Chang Myong-jin, a signé récemment un accord de contrat de partager le coût de la réalisation de prototypes IFX ou KFX. Il était la deuxième phase du développement de l'ingénierie et de fabrication. Ainsi, le projet de l'avion de chasse sophistiqué de génération 4,5 a entré dans l'étape de la production de prototypes. Selon le plan, la fabrication de IFX ou KFX sera faite en 5 unités. 4 unités seront construites en Corée du Sud et le reste en Indonésie. Globalement, la fabrication de prototypes impliquera les ingénieurs indonésiens et sud-coréens. Pendant ce temps, les deux parties ont également signé un accord de cessation de contrat de travail représenté par le président-directeur de PT Dirgantara Indonesia, Budi Santoso, et le président-directeur général de l'industrie aérospatiale de la Corée, M. Ha Sung-yong. Le ministre de la Défense, Riamizat Riakudu, a dit « Cette coopération visait à améliorer la qualité des bonnes relations entre les deux pays, tout en améliorant la capacité de l'industrie nationale de l'acquisition indépendamment des équipements de défense. » Selon lui, le budget pour le développement de l'avion de SAGE a été préparé conjointement. Sur le coût du projet qui a une valeur de 8 milliards de dollars américains, l'Indonésie a sorti un budget d'environ 18 trillions de rupiah ou 20% du budget total de la fabrication des avions, alors que la Corée du Sud a sorti 80% du coût total. Le président-directeur de PT Dirgantara Indonesia, Budi Santoso, a dit « Bien que le gouvernement indonésien ne sorte que 20% pour le développement de l'action, mais pour tout le développement de la connaissance de cet avion, l'Indonésie recevra 100%. » Budi Santoso a expliqué « Il a envoyé 300 employés à apprendre le développement du KFX-IFX en Corée du Sud pour les 3 à 4 ans. » Plus tard, après qu'ils maîtrisent, puis ils fabriqueront l'avion. Le ministre de la Défense, Riamizat Riakudu, a dit que seulement 20% des personnes en Indonésie qui sont impliquées dans la fabrication d'aéronefs de la première unité et de 50% dans la seconde unité sont réalisées en Corée du Sud. Alors que l'un des avions KFX-IFX fabriqué en Indonésie impliquera 80% des ressources humaines indonésiennes. Sur Twitter, c'était la mise au point pour ce soir.
Des centaines de journalistes venus de 20 pays participeront à la Journée nationale de la presse, ou ASPN 2016, à Lombok, Nusa Tenggara West. Le responsable du bien être social de Nusa Tenggara West, comme président de cet événement, Lalu Safi a déclaré lundi à Mataram, de 20 pays qui assisteraient, la Malaisie enverra le plus grand nombre de délégations d'environ 50 personnes. Cependant, 19 autres pays, y compris certains pays européens, enverront des représentants de 5 personnes pour chaque pays. Cependant, on a prévu que les participants dans le pays qui viendraient à Nusa Tenggara West attendraient 1500 personnes provenant de 34 provinces d'Indonésie. Le gouverneur de Nusa Tenggara West, Zainul Majdi, a déclaré que la mise en œuvre de cet événement qui aura lieu en février pourrait être utilisée comme la promotion du tourisme de la région. Le gouvernement accélérera la croissance économique nationale, entre autres via le secteur de la marine et de la pêche. Par conséquent, on a besoin de coopérer avec d'autres pays pour tirer des investissements dans le secteur de la marine et de la pêche, a déclaré la ministre de la Marine et des Pêches, Mme Susi Pujiastuti. À l'ouverture du forum et l'exposition de la marine et des pêcheries 2016, elle a expliqué lundi à Jakarta que pour réaliser la vision et la mission, le ministre des Affaires maritimes et de la pêche nécessite l'harmonie et la coopération avec d'autres pays. Dans cet événement, 12 pays ont partagé des informations sur les dernières technologies dans le domaine de la marine et des pêcheries. En outre, il y a eu l'évaluation de la coopération d'investissement entre l'Indonésie et les pays participants. L'événement a été suivi par l'ambassadeur et les représentants de l'industrie du Danemark, de la Norvège, l'Angleterre, de la Russie, l'Australie, la République tchèque, la France, l'Allemagne, le Japon, la Suisse, la Suède et les États-Unis. L'Indonésie, comme un pays qui a une superficie de la mer de 5,8 millions de kilomètres carrés et comme le plus grand producteur de thon, doit être géré de façon optimale pour augmenter les recettes de l'État, a déclaré le commissaire de PT Dua Putra Utama Makmur, M. Wicaksono. Par conséquent, le gouvernement à travers le ministère des Affaires maritimes et de la pêche a l'intention d'augmenter la production de poissons jusqu'à la fin de 2019 pour atteindre 24,11 millions de tonnes avec la croissance estimée de 14,96%. L'existence de réglementations sur la cessation du transbordement il y a quelque temps est souhaitable, puisse augmenter les activités sur des terres telles que le stockage de poissons et puisse répondre à l'approvisionnement de matières premières dans les unités de la gestion des poissons, a déclaré le directeur général de la pêche et du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, M. Gilwin Youssouf. L'objectif fixé par le ministère maritime, selon Wichak, devait être exploité sérieusement par les hommes d'affaires de l'industrie maritime, surtout dans le domaine de la pêche. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Le consulat général de l'Indonésie à New York, en collaboration avec le ministère du Tourisme, soulève le thème « Le merveille de l'Indonésie » dans l'événement de New York Times Travel Show pour attirer les touristes américains. Cet événement a eu lieu récemment au centre de Jacob Javits à New York. Le ministre conseiller entend également le consul du consulat général de l'Indonésie à New York, M. Benny Yepesiaan, cité par Antara, a déclaré mardi que New York Times Travel Show était une exposition annuelle du tourisme tenue par New York Times et cette exposition touristique est l'une des plus grandes expositions touristiques dans le monde. Participé par environ 100 pays, chaque pays avec plus de 120 participants. À la fois DP et l'opérateur de voyage, cette exposition a été visitée par environ 25 milliers de visiteurs. La conception du pavillon de merveilles de l'Indonésie est inspirée par l'élégance du navire Pinisi et affiche la beauté naturelle, la diversité des destinations touristiques, culturelles, culinaires et les gens de l'Indonésie qui ont réussi à attirer les milliers de touristes pendant 3 jours d'exposition. Le directeur général du développement de l'exportation nationale du ministère du développement du commerce, Nuzulia Ishak, a déclaré que les jouets de l'Indonésie seront assimilés aux produits de jouets des États-Unis, du Japon, de la France, l'Italie, la Corée du Sud, la Grande-Bretagne et l'Espagne. Les produits des jouets de l'Indonésie seront exposés à l'exposition des jouets de Hong Kong du 11 au 14 janvier 2016 au Centre de l'exposition et de la Convention de Hong Kong. Nuzulia Ishak a expliqué lundi que c'était une occasion pour montrer la qualité des produits des jouets aux acheteurs du monde entier. Selon lui, l'événement organisé chaque année est devenu une place de la réunion des acheteurs du monde avec les fournisseurs. Nuzulia a ajouté que Hong Kong était l'un des centres logistiques plus importants en Asie. Le Festival de Merveille Tambora 2016 aura lieu du 11 au 16 avril 2016 à Nusa Tenggara Ouest. Il a été lancé par le ministère du Tourisme, Arif Yahya, et le gouverneur de Nusa Tenggara Ouest, Zainal Majdi Langdi, à Jakarta. Cet événement est destiné à accroître le potentiel de charme naturel et culturel, y compris le moment pour commémorer l'éruption du mont Tambora qui a éclaté il y a 200 ans. Le ministre souhaite que le festival puisse augmenter les arrivées des touristes étrangers à l'Indonésie et encourager les voyages des touristes domestiques. Et l'objectif cette année, 12 millions de personnes et 260 millions de voyages touristiques antérieurs. À cette occasion, le ministre Aril a déclaré qu'il était prêt à intensifier la promotion de Lombok, la province de Nusa Tenggara Ouest, notamment pour la destination touristique halal. Il souhaite la croissance du nombre de touristes à Lombok augmente jusqu'à 50% cette année. C'était le journal de la Voix d'Indonésie, diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la Voix d'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, écoutons maintenant notre programme culturel dans la rubrique Le magazine culturel qui sera suivi par Apprendre l'Indonésien.
Pour comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Allez, apprendre l'indonésien. Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs. Vous allez maintenant écouter le programme Apprendre l'indonésien. Notre sujet d'aujourd'hui est le salon de kecantikan, ce qui signifie en français au salon de beauté. Tout d'abord, je vais vous présenter les mots de vocabulaire et quelques expressions utilisées en relation avec notre sujet d'aujourd'hui. Salon kecantikan, en français, salon de beauté. Rencana, rencana, en français, projet. Mencuci rambut, en français, laver des cheveux. Mewarnai rambut, en français, colorer des cheveux. Panjang, panjang, en français, long. Pendek, pendek, en français, court. Segar, segar, en français, fraîche. Muda, muda, en français, jeune. Perawatan kaki, en français, soin des pieds. Perawatan tangan, en français, soin des mains. Tahun baru, en français, nouvelle année. Penampilan baru, en français, nouvelle apparence. Semangat baru, en français, esprit nouveau. Chers auditeurs, voici le dialogue entre Anita A et Nancy B au bureau. A. Nancy, apa rencanamu di akhir pekan? Nancy, apa rencanamu di akhir pekan? Nancy, quel est votre projet pour le week-end? Kalau tidak ada acara, bagaimana kalau kita ke salon kecantikan? Kalau tidak ada acara, bagaimana kalau kita ke salon kecantikan? S'il n'y a pas de projet, que pensez-vous d'aller au salon de beauté? B. Oh, saya setuju sekali. Oh, saya setuju sekali. Oh, je suis d'accord. Saya mau mencuci dan memotong rambut. Saya mau mencuci dan memotong rambut. Je veux me laver et couper les cheveux. Je veux me laver et couper les cheveux. Dan mewarnai rambut. Dan mewarnai rambut. Et colorer les cheveux. A. Saya juga ingin potong rambut. Saya juga ingin potong rambut. Oui, je veux aussi couper mes cheveux. Rambut saya sudah panjang. Rambut saya sudah panjang. Mes cheveux sont déjà longs. Saya ingin punya rambut pendek. Saya ingin punya rambut pendek. Je veux avoir les cheveux courts. Supaya tampak segar dan lebih muda. Supaya tampak segar dan lebih muda. Pour faire paraître frais et plus jeune. Selain itu, saya juga ingin perawatan kaki dan tangan. Selain itu, saya juga ingin perawatan kaki dan tangan.
En outre, je voudrais aussi des soins des pieds et des mains. B. Ya, tahun baru, penampilan baru. Semangat juga harus baru. Iya, tahun baru, penampilan baru. Semangat juga harus baru. Oui, la nouvelle année, la nouvelle apparence. L'esprit doit également être nouveau. Chers auditeurs, c'était Apprendre l'indonésien pour aujourd'hui.
Des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, serviteurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions indonésiennes. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous présenter la plage Baru. Serviteur, le service de la culture et du tourisme de Bantul, Yogyakarta, a enregistré 2,58 millions de touristes de différentes régions à visiter les attractions touristiques locales au cours de l'an 2015, contribuant ainsi aux recettes locales d'un montant de 11,15 milliards rupiah. La plupart des touristes ont visité cette destination touristique allant le long de la côte sud à deux attractions touristiques naturelles à Bantul. La plage de Parangtritis, qui devient un avec la plage d'Epok, est célèbre pour son plat de poisson, est une destination préférée des touristes, avec le nombre de visites d'environ 2,05 millions de personnes. Et ensuite, la plage Baru de 163 000 personnes, la plage Samas, 140 850 personnes, la plage de Guacimara de 95 260 personnes et la plage de Guaru, 67 585 personnes. Alors que le reste est la visite à une attraction touristique de la grotte, à savoir la grotte de Chorme à Selopamioro Imogiri et la grotte Selarong à Pajangan. Serviteurs, maintenant nous vous invitons à visiter la place Baru, l'une des sept destinations touristiques les plus visitées par les touristes à Bantul. La place est classée comme la plus jeune dans la région de Yogyakarta. Cette plage est située dans le village Ontak, Poncosari, Serandakan. L'accès à cette plage est relativement facile, tandis que du centre-ville nécessite le temps d'environ 1 à 2 heures. Pour entrer dans cette zone touristique, vous devez payer le ticket de 5 000 rupiah par personne et le ticket de stationnement de 1000 rupiah par véhicule. Serviteurs, pour être en mesure de profiter de la beauté de la plage Baru à partir de l'aire de stationnement, il faut marcher environ 400 mètres en passant des étals, puis à environ 100 mètres, vous passez l'épaisse forêt de pins qui rend l'atmosphère de la plage n'est pas chaud pendant la journée. La plage a une longueur d'environ de 4 milles. La plage est ombreuse, large et en pente. Les vagues sont assez grandes. Vous devez être prudent lors de la baignade ou de jouer de l'eau au bord de la plage. Dans cette zone touristique, il y a l'attraction touristique spirituelle, à savoir Petilasan, un lieu de recluse de la famille du palais de Ngayogyakarta Hadiningrat, qui est toujours maintenu. Vous pourriez bien voir ce Petilasan pendant les vacances à la plage Baru. La place Baru est visitée par beaucoup de touristes, en particulier lorsque l'événement du concours national de roulette qui a lieu chaque année. En outre, ce qui est intéressant, à la place Barou, il y a un modèle pilote des systèmes d'innovation régionale sous la forme d'une centrale solaire et éolienne. Cette centrale hybride peut être considérée comme la seule à Yogyakarta. La place Barou continue d'être développée comme un tourisme naturel, tourisme éducatif basé sur la technologie, à savoir le moulin à vent qui est la centrale ainsi que l'agrotourisme et la pêche. Cette place a 17 ans et il y a aussi l'élevage avec 150 cages dont les membres sont les groupes de pêcheurs d'environ 96 personnes. Comme le site touristique excellent à Bantul, les installations existantes à la place Barou sont déjà très complètes. Il y a de nombreux stands de fruits de mer, la salle de bain, la toilette, le grand parking, la mosquée et il y a aussi VTT à louer. Vous pouvez louer un VTT à voyager autour de la plage. Le loyer n'est pas cher, 30 000 roupias pour 15 minutes. Chères auditrices et chers auditeurs, c'est le magazine culturel pour ce soir avec le titre « La plage Barou ». Demain, nous nous retrouverons avec un nouveau sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Comme la fin de notre émission, nous vous présentons la rubrique de distraction. Et aujourd'hui, vous allez écouter des chansons pop.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la Voix d'Indonésie dans le monde entier. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz. Ou bien en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour cette édition, je présenterai des chansons pop chantées par groupe de musique Chris Patih. Bon, chers amis, on écoutera la première chanson intitulée « Je suis ici ». C'était une chanson du groupe de musique Chris Patti intitulée « Je suis ici » de la voix d'Irnésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, Chris Patti est le groupe de musique qui a été créé le 21 avril 2003 à l'initiative de 4 étudiants de l'Institut de musiciens indonésiens tels que Arif, Badai, Andika et Anton. Au début, ils ont formé un groupe de musique avec le thème instrumental ethnique. Donc, ils ont composé dans un nouvel arrangement. La première présentation du groupe de musiciens de Chris Patti à l'événement de Farabi Sunday le 22 avril 2003. Et ils ont recruté Sammy, leur collègue sur le campus, qui était l'un des 30 finalistes Indonesia Idol 2004. En tant que chanteur, en 2005, ils ont sorti leur premier album intitulé « Il est parti ». Cet album a reçu le prix de platine en 2006. Et chers amis, voici d'autres chansons de Chris Patti intitulées « Regret ».
Gue nyesel banget waktu zamannya nyokap gue nyekolahin gue main-main sekolahnya.
Gue nyesel banget karena gue doa kurang lama buat adik gue yang meninggal waktu itu.
Pernah ku sangkali kehilafanku yang kini membuatmu jauh. Terlambat aku membuat kau mengerti hati ini telah menyesal. Mohon untuk kesekian kali, maafkan dan terima ku kembali. Demi cinta, ku bersumpah biar bumi menyaksikannya. Semua yang telah terjadi tak akan ku ulang lagi. Kamu nyawa di jiwaku, separuh nafas di cintaku. Dan ku akui ku hanya bisa
rasain gimana rasanya kerja, cari duit capek-capek, terus gak dihargai.
Padahal gue harapin, kalau gue doa bisa lebih lama, ya bisa dihidupin lagi sama Tuhan.
Kalau misalnya orang itu ngasih gue kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya, gue pasti akan minta maaf sama dia dan gue akan lebih care lagi sama dia.
Untuk kesekian kali, mohon terima. Bye.
gue nyesel dulu gue pernah ngecewain nyokap gue. Gue nyesel banget dan sekarang gue berharap gue bisa nyenengin nyokap gue deh sampai akhir hayat gue.
Penyesalan gue akhir-akhir ini gue mengecewakan orang tua. Dikasih kepercayaan gue tidak menghargai kepercayaan. Gue berharap sih ke depan gue bisa memperbaiki itu dan membalas kepercayaan mereka.
Penyesalan gue adalah tidak bisa menemani ibu saya ketika hari-hari terakhir di rumah sakit karena kesibukan saya. Jadi pesan saya buat di luar sana untuk selalu hubungi orang tua kalian selagi sempat.
Gue banyak momen lewatnya bersama istri gue, tapi ada satu yang gue nyesal, yaitu menyepelekan tentang bunga. Dari kejadian itu ada pesan satu dari istri gue. Kamu kasih bunga tuh jangan hanya sama tinggal, bisa-bisa orang yang masih hidup. Sayangilah istri dan mama kamu. Kalau bisa kamu kasih bunga, karena bunga itu untuk orang hidup juga, bukan hanya meninggal. Dan itu mereka masih bisa merasakan.
Ya, penyesalan gue adalah dulu gue pernah berantem sama bokap gue. Gue pernah ngelawan bokap gue. Dan akhirnya gue ingat banget gue minta maaf sama bokap gue waktu bokap gue stroke di rumah sakit. Udah gak bisa ngomong tapi hanya meneteskan air mata. Dan kalau gue bisa mengulang waktu, gue akan membahagiakan kedua orang tua gue. Jadi berbahagialah kalian yang masih punya orang tua.
Tak akan ku ulang lagi. Kamu nyawa di jiwaku.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix d'Irnézi, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous êtes en train d'écouter des chansons pop chantées par groupe de musique Chris Patti. Le 24 avril 2015, Chris Patti a célébré le deuxième anniversaire. Et devant les fans, il a tourné le clip vidéo de leur nouveau single intitulé « Désolé ». Le 27 décembre 2015, Chris Patti a participé au lancement de mascotte des Jeux Asiatiques de 2018 à Plaza Selatan, Gelora Bung Karno. Il a chanté 5 chansons populaires, entre autres « Pour l'amour » et « Ami ». Bon, chers amis, avant de terminer cette émission, on va écouter deux chansons intitulées Pour l'amour et l'ami. Tous les deux sont chantés par Chris Patti. Merci à tous et à bientôt.
Ada duka kawan, hidup ini kan berputar kawan. Kita mesti tegar menghadapi untuk masa depan kita nanti. Tengoklah indahnya negeri ini, kebesaran yang kita miliki, tanah air yang indah dan permai. Bersama kita syukuri.
akan bahagia.
C'était quelques chansons indonésiennes de la voix d'Indonésie diffusées depuis Jakarta. Ainsi se termine notre émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.